Chapitre 24. Quand le garçon fut sorti, Dalton bâilla sans décrocher la mâchoire. Levé à l'aube, il avait convoqué ses collaborateurs les plus proches pour faire le point sur le banquet de la veille, au cas où ils auraient surpris des conversations intéressantes, et mettre au point la préparation et la distribution des messages. Son équipe de copistes, triée sur le volet et capable à l'occasion de lui rendre d'autres services, avait investi les 6 pièces placées en enfilade derrière son bureau dans le couloir. Mais pour tout faire en si peu de temps, elle avait également dû s'installer dans l'antichambre de son fief. Alors que le soleil se levait, des dizaines de messagers étaient partis pour les 4 coins d'Andérite et ils remettraient le texte qu'il avait rédigé à des héros. Dans quelques heures, quand le ministre aurait quitté le lit de sa conquête de la veille, Dalton l'informerait de la teneur de la proclamation. Rien de plus normal puisqu'elle était signée de son nom. Les héros la liraient dans les salles de réunion des guildes et des organisations de marchands, sur le parvis des mairies des villes et des villages, dans les tavernes et les auberges, dans les casernes, dans les temples, devant les haken rassemblés pour leur séance de repentance, dans la cour des brasseurs et des fabricants de parchemins et sur toutes les places de marché. D'un bout à l'autre d'Andérite, le message rédigé par Dalton au mot près se répandrait comme une traînée de poudre. Les héros qui ne lisaient pas scrupuleusement le texte qu'on leur confiait perdaient vite cette intéressante source de revenus supplémentaires, et les candidats désireux de les remplacer se pressaient au portillon. Afin de contrôler les héros, Dalton faisait parvenir les proclamations à un certain nombre de citoyens heureux de gagner un peu d'argent de poche en allant s'assurer qu'elles étaient lues correctement. Bien entendu, il ne pouvait pas procéder ainsi partout en même temps, mais il avait ses réseaux et il organisait des rotations qui lui permettaient de balayer large, une autre façon de tendre sa toile. Peu de gens comprenaient l'importance d'une fidélité absolue au texte de base quand on s'adressait ainsi à toute une population. À la grande satisfaction de Dalton, qui l'avait mesuré depuis longtemps, la plupart des personnes qu'il connaissait, même très haut placées, sous-estimaient le pouvoir des mots. Lorsqu'on s'exprimait de la bonne façon, les gens croyaient ce qu'ils entendaient, quel que soit le sens réel du discours. L'art de déformer subtilement l'information était une arme redoutable, mais bien peu d'hommes politiques savaient en tirer le meilleur parti. Une nouvelle loi venait d'être promulguée. Elle interdisait le favoritisme dans les métiers du bâtiment et imposait l'embauche de tous les travailleurs qui demanderaient un emploi. 2 jours plus tôt, une telle agression contre la toute-puissance d'une guilde aurait été impensable. Suprêmement subtile, la proclamation de Dalton exhortait le peuple à rester fidèle aux idéaux de la culture andérienne. Même si de telles réactions étaient compréhensibles, elles proscrivaient toute représailles contre les maçons, en partie responsables du malheur de tant d'enfants. Bien au contraire, elle les adjurait de se conformer aux nouveaux critères, moralement plus élevés, de la loi Winthrop pour l'emploi équitable. Pris à contre-pied, les maçons, au lieu d'attaquer les nouvelles mesures, s'efforceraient de prouver qu'ils n'avaient jamais intentionnellement affamé les gamins de leurs voisins. Bientôt, pour ne pas être lapidés par des foules en colère, ils deviendraient les plus ardents défenseurs de la loi, comme s'ils étaient à l'origine de son adoption. Dalton avait pour règle d'envisager toutes les possibilités et de trouver une parade avant qu'on tente de lui porter un mauvais coup. Quand Fitch partirait avec la sacoche qui contenait le texte de loi après que Rollet l'eût fait se laver et passer à l'intendance, il serait trop tard pour que le bureau de l'harmonie culturelle réagisse, même si les 11 directeurs avaient changé d'avis. Les héros auraient fait connaître la nouvelle loi dans toute la ville, et d'autres seraient sur le point de s'en charger un peu partout dans le pays. Après leur approbation à main levée du banquet, les directeurs seraient pieds et poings liés. Fitch ferait une excellente recrue pour l'équipe de messagers. Tous ces hommes qu'il avait sélectionnés au fil des dernières années venaient de trous perdus où les aurait attendu une vie de labeur ingrat, d'humiliation et de désespoir. Pour faire court, ils étaient l'allié de la civilisation andérienne, et aujourd'hui, en délivrant des messages aux héros, ils contribuaient à la manipuler. De plus, leur rôle ne se limitait pas à jouer les coursiers pour Dalton. En réalité, ils étaient son armée privée, payée par l'argent public, et il n'aurait pas atteint son poste actuel sans leur soutien. Ces hommes lui vouaient une indéfectible loyauté, et la plupart étaient prêts à mourir pour lui s'il le demandait, et cela était parfois arrivé. Dalton laissa ses pensées aborder des rivages plus agréables. Teresa. Extatique d'avoir été présentée au pontife, elle avait tenu sa promesse lorsqu'il s'était couché après le banquet. Et bon sang, elle ne mentait pas quand elle affirmait être bonne. Il en avait encore eu la preuve lorsqu'elle s'était attelée à le récompenser. Transfigurée par sa rencontre avec le pontife, elle avait décidé de consacrer sa matinée à la prière. Face au Créateur en personne, Dalton doutait qu'elle aurait été plus émue, et il était ravi de lui avoir fourni l'occasion de vivre un moment si exaltant. Au moins, elle ne s'était pas évanouie, au contraire des nombreuses femmes, et même d'un des hommes, qui avaient eu la veille l'honneur de voir le pontife en face. Cette réaction, si elle n'avait pas été tellement courante, aurait pu être embarrassante pour ses convives. Mais tout le monde avait compris et accepté ce qui était, au fond, un touchant témoignage de foi. Et de fidélité au Créateur, bien entendu, puisque le pontife le représentait en ce monde. Dalton prenait le vieil homme pour ce qu'il était, un être humain. Très puissant, certes, mais tout de même fait de chair et de sang. Beaucoup de gens ne partageaient pas cet avis et le tenaient pour un saint épargné par les contingences de la vie. Quand Bertrand Chanebourg, déjà considéré comme le plus grand ministre de la civilisation de l'histoire, le remplacerait, lui aussi serait l'objet d'une vénération aveugle. Comme souvent, Dalton regardait les choses avec une lucidité peu répandue. À ses yeux, les femmes qui s'étaient évanouies, loin d'être d'admirables dévotes, auraient mille fois préféré se coucher sous le pontife que de gésir à ses pieds. Une expérience quasi mystique, dont l'idée les excitait plus encore que celle de passer la nuit entre les bras d'un homme de pouvoir aussi éminent que le ministre de la civilisation. Et les maris, ils l'auraient juré, se seraient enorgueillis que leur épouse, prête à se sacrifier sur l'autel de la foi, ait connu une aussi parfaite communion avec le saint qui présidait à la destinée d'Anderit. Entendant frapper à la porte, Dalton ouvrit la bouche pour crier « Entrez !» Mais sa visiteuse ne jugea pas utile d'attendre une invitation et fit sans complexe irruption dans son bureau. C'était Franca Goenlock, bien entendu. Campbell se leva pour l'accueillir. « Franca, quel plaisir de vous voir. Le banquet vous a-t-il plu ?» Pour une raison connue d'elle seule, Franca était d'une humeur plus que morose. Avec ses cheveux et ses yeux noirs et son art très particulier de toujours paraître tapi dans l'ombre, même en plein soleil, cela lui donnait un air franchement sinistre. Quand Franca déboulait quelque part, la température semblait toujours chuter de quelques degrés et un grand silence se faisait autour d'elle. Elle s'empara d'une chaise au passage, la tira jusque devant le bureau, s'assit et croisa agressivement les bras sans daigner saluer Dalton. Surpris et troublé, il se laissa retomber sur sa chaise. De petites lignes se formèrent autour des yeux de Franca quand elle les plissa.
« Je n'aime pas l'émissaire de l'ordre. Ce Stein. Oui, il me répugne. »
Dalton se radossa à sa chaise. Franca laissa ses longs cheveux noirs cascader librement sur ses épaules, qu'il touchait presque. Pourtant, ils restaient tirés en arrière comme s'ils avaient été gelés par un vent glacial. Si la touche de gris qui courait sur ses tempes ne la vieillissait pas vraiment, elle ajoutait à la gravité un rien sinistre de son visage. Sa robe ocre, toute simple, était boutonnée jusqu'au col. Juste au-dessus, une large bande de velours noir enveloppait sa gorge. Parfois, la couleur changeait, mais Dalton n'avait jamais vu Franca sans cet étrange accessoire vestimentaire. Évidemment, ce détail l'intriguait, et il aurait donné cher pour savoir ce qui se cachait sous le velours. Franca étant ce qu'elle était, il n'avait jamais osé lui poser la question. Il la connaissait depuis près de 15 ans, et cela faisait une bonne décennie qu'il recourait à ses services. De temps en temps, il imaginait qu'elle avait jadis été décapitée, puis avait toute seule recousu sa tête sur son cou.
« Vous m'envoyez navré, Franca, »
répondit-il enfin.
« Vous a-t-il fait quelque chose? Il ne vous aurait pas insulté, quand même, ou accablé de ses assiduités ?» S'il a osé, je me chargerai de le lui faire regretter, vous avez ma parole. »
Franca ne douta pas un instant de la sincérité de son interlocuteur. Très lentement, elle croisa ses longs doigts élégants sur ses genoux et lâcha.
« Avec le nombre de femmes qui lui couraient après, il n'a pas eu besoin de s'intéresser à moi. » « Alors de quoi s'agit-il ? »
demanda Dalton totalement perdu, mais toujours sur ses gardes. Franca s'accouda au bureau et appuya son menton sur ses mains croisées.
Il s'en est pris à mon pouvoir, en le brouillant ou quelque chose comme ça. »
Dalton tressaillit, sa perplexité balayée par l'inquiétude.
« Vous pensez qu'il a des pouvoirs magiques? Il vous aurait jeté un sort? Je n'en sais rien, mais je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Comment le savez-vous? Pendant le banquet, j'ai voulu espionner les conversations grâce à mon don, comme d'habitude. Je n'ai rien capté, Dalton. Le noir total. Dois-je comprendre que votre pouvoir ne vous a été d'aucun secours pour entendre de loin les invités? Seriez-vous sourd? C'est exactement ce que je viens de dire. »
Dalton pianota nerveusement sur la table, puis il tourna la tête vers une fenêtre. Après une brève hésitation, il se leva, écarta la tenture et entr'ouvrit le battant vitré pour laisser entrer un peu d'air frais. Enfin, il fit signe à Franca de le rejoindre.
« C'est de là, »
dit-il en désignant des hommes qui conversaient au pied d'un arbre sur la pelouse.
« Répétez-moi ce qu'il raconte. »
Franca prit appui sur le rebord de la fenêtre et se pencha un peu en avant, les yeux rivés sur ses cobayes. À la lumière du soleil, Dalton vit à quel point le temps avait ridé et creusé un des plus jolis visages qu'il lui eût été donné de voir. Et malgré l'âge, la beauté de Franca demeurait fascinante.
Les deux hommes gesticulaient d'abondance en parlant, et Campbell n'entendait rien de ce qu'ils disaient. Avec son pouvoir, Franca aurait dû être en mesure de capter jusqu'au moindre mot. La femme blêmit, son visage aussi figé que ceux des personnages de cire de l'exposition ambulante qui faisait étape deux fois par an à Fairfield. On aurait juré qu'elle ne respirait plus. « Je n'entends rien, »
soupira-t-elle enfin.
« De si loin, je ne peux pas lire sur leurs lèvres, mais mon don devrait me permettre de les entendre. Oui, il le devrait. »
Dalton se pencha pour jeter un coup d'œil au pied du bâtiment.
« Et ces deux hommes, là ?»
Franca baissa aussi les yeux. Campbell parvenait à capter un vague écho de la conversation des domestiques, sans réussir à la comprendre, mais tout juste. Franca se concentra, puis soupira de nouveau, rageusement cette fois.
« Rien! Et pourtant, ils sont si près que j'entends leurs exclamations et leurs rires avec les vulgaires oreilles que m'a donné le Créateur !»
Dalton referma la fenêtre. Sur le visage de Franca, que la colère désertait déjà, il eut un sentiment qu'il n'y avait jamais vu, de la peur.
« Dalton, vous devez vous débarrasser de Stein. Il doit être un sorcier ou je ne sais quelle variante de magicien. Ce chien m'a privé de mon pouvoir. »
« Comment savez-vous que c'est lui ?»«
Eh bien, qui d'autre pourrait être coupable ? Il crie sur tous les toits qu'il veut éliminer la magie et mes problèmes ont commencé il y a quelques jours, au moment de son arrivée. »
« Avez-vous eu des difficultés avec les autres talents que vous confère votre don ?»
Franca se détourna et se tordit nerveusement les mains.
« Il y a deux ou trois jours, j'ai jeté un sort mineur pour une femme qui voulait avoir son flux menstruel plus tôt, afin de ne pas tomber enceinte. Ce matin, elle est venue se plaindre parce que ça n'avait pas fonctionné. Ce que vous appelez un sort mineur ne me semble pas si simple que ça. » Il y a tellement de paramètres en jeu qu'un échec est toujours possible.
Dalton, c'est la première fois que ça rate.
Dans ce cas, une maladie vous diminue peut-être. Vous avez des symptômes inhabituels ces derniers temps?
Je me porte à merveille, et j'ai l'impression que mon pouvoir est aussi puissant que d'habitude. Pourtant, ce n'est pas le cas. J'ai lancé d'autres sorts pour vérifier, et tous ont fait long feu.
Franca, je ne suis pas expert en magie, mais c'est peut-être une question de confiance en vous-même. Pour que tout rentre dans l'ordre, s'il suffisait que vous y croyiez de nouveau.
« Où avez-vous été pêcher des idées aussi idiotes sur la magie ?»
demanda la femme excédée.
« C'était simplement une hypothèse. D'accord, je n'y connais pas grand-chose, mais je doute que Stein ait le don, voire même un pouvoir mineur. Ça ne colle pas avec sa personnalité. De plus, aujourd'hui, il n'est pas au domaine, mais quelque part dans la campagne, en visite touristique, et il est parti depuis des heures. »
Franca contourna Dalton pour aller se rasseoir. La voir aussi effrayée, sans qu'elle paraisse moins terrifiante pour autant, fit frissonner l'assistant.
« Dans ce cas, »
murmura-t-elle,
« j'ai perdu mon pouvoir, et je ne peux rien y faire. »
« Franca, je suis sûr que vous détenez Serin Radjak, n'est-ce pas ? S'il s'est évadé pour rejoindre les fanatiques qui ont épousé sa cause, il est toujours en prison, je vous l'assure. Ou mort, ce qui serait encore mieux. Depuis le temps qu'il croupit dans un donjon, Rajak n'est plus une menace pour personne, et sans lui, ses sbires sont impuissants.
Franka détourna le regard et hocha la tête, à moitié convaincu.
Votre pouvoir reviendra, dit Dalton en lui tapotant le bras. Ne vous laissez pas abattre.
Je suis terrifié,
souffla la femme, des larmes aux yeux. Campbell la prit dans ses bras pour la consoler. Après tout, cette redoutable magicienne était aussi et avant tout son amie. Soudain, il se souvint de l'antique chanson qu'il avait entendue au banquet.
Vinrent les trois voleurs de la sorcellerie.